4. Des ouvrages de ce singulier génie, j'ai peu de choses à dire. Le public fera voir ce qu'il en pense. Il me serait difficile peut-être, mais non pas impossible, de débrouiller sa méthode, d'expliquer son procédé, surtout dans la partie de ses œuvres dont le principal effet gît dans une analyse bien ménagée. Je pourrais introduire le lecteur dans les mystères de sa fabrication, m'étendre longuement sur cette portion de génie américain qui le fait se réjouir d'une difficulté vaincue, d'une énigme expliquée, d'un tour de force réussi, qui le pousse à se jouer avec une volupté enfantine et presque perverse dans le monde des probabilités et des conjectures, et à créer des canards auxquels son art subtil a donné une vie vraisemblable. Personne ne niera que Poe ne soit un jongleur merveilleux, et je sais qu'il donnait surtout son estime à une autre partie de ses œuvres. J'ai quelques remarques plus importantes à faire, d'ailleurs très brèves. Ce n'est pas par ces miracles matériels qui pourtant ont fait sa renommée qu'il lui sera donné de conquérir l'admiration des gens qui pensent. C'est par son amour du beau, par sa connaissance des conditions harmoniques de la beauté, par sa poésie profonde et plaintive, ouvragée, néanmoins, transparente et correcte, comme un bijou de cristal, par son admirable style, pur et bizarre, serré comme les mailles d'une armure, complaisant et minutieux, et dont la plus légère intention sert à pousser doucement le lecteur vers un but voulu. Et enfin, surtout par ce génie tout spécial, par ce tempérament unique qui lui a permis de peindre et d'expliquer, d'une manière impeccable, saisissante, terrible, l'exception dans l'ordre moral. Diderot, pour prendre un exemple entre cent, est un auteur sanguin. Poe est l'écrivain des nerfs, et même de quelque chose de plus, et le meilleur que je connaisse. Chez lui, toute entrée en matière est attirante, sans violence, comme un tourbillon. Sa solennité surprend et tient l'esprit en éveil. On sent tout d'abord qu'il s'agit de quelque chose de grave. Et lentement, peu à peu, se déroule une histoire dont tout l'intérêt repose sur une imperceptible déviation de l'intellect, sur une hypothèse audacieuse, sur un dosage imprudent de la nature dans l'amalgame des facultés. Le lecteur, lié par le vertige, est contraint de suivre l'auteur dans ses entraînantes déductions. Aucun homme, je le répète, n'a raconté avec plus de magie les exceptions de la vie humaine et de la nature, les ardeurs de curiosité de la convalescence, les fins de saison chargées de splendeurs énervantes, les temps chauds, humides et brumeux, où le vent du sud amollit et détend les nerfs comme les cordes d'un instrument, où les yeux se remplissent de larmes qui ne viennent pas du cœur. L'hallucination laissant d'abord place au doute, bientôt convaincue et raisonneuse comme un livre. L'absurde s'installant dans l'intelligence et la gouvernant avec une épouvantable logique. L'hystérie usurpant la place de la volonté. La contradiction établie entre les nerfs et l'esprit. Et l'homme désaccordé au point d'exprimer la douleur par le rire. Il analyse ce qu'il y a de plus fugitif. Il soupèse l'impondérable et décrit, avec cette manière minutieuse et scientifique dont les effets sont terribles, tout cet imaginaire qui flotte autour de l'homme nerveux et le conduit à mal. L'ardeur même avec laquelle il se jette dans le grotesque pour l'amour du grotesque et dans l'horrible pour l'amour de l'horrible me sert à vérifier la sincérité de son œuvre et l'accord de l'homme avec le poète. J'ai déjà remarqué que, chez plusieurs hommes, cette ardeur était souvent le résultat d'une vaste énergie vitale inoccupée, quelquefois d'une opiniâtre chasteté et aussi d'une profonde sensibilité refoulée. La volupté surnaturelle que l'homme peut éprouver à voir couler son propre sang, les mouvements soudains, violents, inutiles, les grands cris jetés en l'air sans que l'esprit ait commandé au gosier, sont des phénomènes arrangés dans le même ordre. Au sein de cette littérature où l'air est raréfié, l'esprit peut éprouver cette vague angoisse, cette peur prompte aux larmes et ce malaise du cœur qui habite les lieux immenses et singuliers. Mais l'admiration est la plus forte, et d'ailleurs l'art est si grand. Les fonds et les accessoires y sont appropriés aux sentiments des personnages. Solitude de la nature ou agitation des villes, tout y est décrit nerveusement et fantastiquement. Comme notre Eugène de la Croix, qui a élevé son art à la hauteur de la grande poésie, Edgar Poe aime à agiter ses figures sur des fonds violâtres et verdâtres où se révèle la phosphorescence de la pourriture et la senteur de l'orage. La nature dite inanimée participe de la nature des êtres vivants et, comme eux, frissonne d'un frisson surnaturel et galvanique. L'espace est approfondi par l'opium. L'opium y donne un sens magique à toutes les teintes et fait vibrer tous les bruits avec une plus significative sonorité. Quelquefois, des échappées magnifiques, gorgées de lumière et de couleurs, s'ouvrent soudainement dans ces paysages et l'on voit apparaître au fond de leurs horizons des villes orientales et des architectures vaporisées par la distance, où le soleil y jette des pluies d'or. Les personnages de Poe, ou plutôt le personnage de Poe, l'homme aux facultés suraiguës, l'homme aux nerfs relâchés, l'homme dont la volonté ardente et patiente jette un défi aux difficultés, celui dont le regard est tendu avec la roideur d'une épée sur des objets qui grandissent à mesure qu'il les regarde, c'est Poe lui-même. Et ces femmes, toutes lumineuses et malades, mourant de mots bizarres et parlant avec une voix qui ressemble à une musique, c'est encore lui. Ou du moins, par leurs aspirations étranges, par leur savoir, par leur mélancolie inguérissable, elles participent fortement de la nature de leur créateur. Quant à sa femme idéale, à sa Titanide, elle se révèle sous différents portraits éparpillés dans ses poésies trop peu nombreuses, portraits, ou plutôt, manières de sentir la beauté, que le tempérament de l'auteur rapproche et confond dans une unité vague, mais sensible, et où vit plus délicatement peut-être qu'ailleurs cet amour insatiable du beau qui est son grand titre, c'est-à-dire le résumé de ses titres à l'affection et au respect des poètes. Nous rassemblons sous le titre « Histoires extraordinaires » divers contes choisis dans l'œuvre générale de Poe. Cette œuvre se compose d'un nombre considérable de nouvelles, d'une quantité non moins forte d'articles critiques et d'articles divers, d'un poème philosophique, Eureka, de poésie et d'un roman purement humain, La relation d'Arthur Gordon Pym. Si je trouve encore, comme je l'espère, l'occasion de parler de ce poète, je donnerai l'analyse de ses opinions philosophiques et littéraires, ainsi que généralement des œuvres dont la traduction complète aurait peu de chances de succès auprès d'un public qui préfère de beaucoup l'amusement et l'émotion à la plus importante vérité philosophique.